Bonjour et bienvenue dans le podcast Gardien de la naissance. Ici, on explore ensemble cette aventure bouleversante qui est celle de devenir père aujourd'hui. Le défi est immense. Pourtant, il est souvent invisible parce que ce ne sont pas eux qui portent le bébé 9 mois, qui accouchent, qui allaitent. Mais parce que leur rôle est essentiel, ici, je leur donne la parole. Chaque mois, je partage des témoignages de pères et des interviews d'experts pour t'aider à vivre ta paternité pleinement. Je suis Susanna, la créatrice de ce podcast, et si tu t'interroges sur mon accent, je suis portugaise. Et si je suis ici aujourd'hui avec toi, c'est parce que la naissance de mes deux enfants a complètement transformé ma vie. Et j'ai vu l'impact décisif que mon partenaire a eu sur mes grossesses, mes accouchements et même mes allaitements. Sans lui, sa préparation, son implication, c'est sûr que rien n'aurait été pareil. Dans une vie d'avant, je gérais une start-up dans la finance. Et puis, je suis devenue mère et j'ai tout quitté pour suivre mon intuition, ce besoin de comprendre l'humain, le corps, le lien, l'amour. Et aujourd'hui, j'accompagne les futurs pères et les couples à se préparer ensemble à l'arrivée de leur bébé. Avant de commencer, si tu veux aller plus loin, j'ai créé un défi audio avec des exercices pratiques pour passer à l'action et commencer à incarner dès aujourd'hui le pilier, le gardien puissant, le père présent que tu as envie d'être. Le lien est dans la description de cet épisode. Je te souhaite une très belle écoute. C'est parti. Bonjour Sébastien, merci beaucoup d'avoir accepté d'échanger avec moi aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots?
Oui, bien sûr. Bonjour Susanna et merci pour cette invitation et cette invitation à la parole et à déposer la parole d'un père. Donc je suis Sébastien, j'ai 51 ans. Je suis le père de 5 enfants dans les étoiles et en chemin de couple depuis 27 ans avec ma compagne Amélie. Et j'aime souvent me présenter sous cet angle, on va dire, familial plus que professionnel. Parce que la famille occupe, on va dire, beaucoup de place dans mon histoire de vie. Mmh. Voilà. Et sinon, à côté, je suis thérapeute. Je mets mon énergie aussi à cet endroit pour accompagner les gens, en l'occurrence les hommes et les pères, à cheminer. Et voilà.
Super.
Voilà en quelques mots.
Merci. Est-ce que tu as toujours envie d'être père?
Je crois que je me posais pas forcément la question jusqu'à ce que je rencontre Amélie. Qui était ma voisine de palier et notre histoire a commencé là, à cet endroit, comme dans les romans ou les séries. Et on n'avait que deux appartements et elle avait le rose et moi j'avais le bleu, un truc très caricatural. Et voilà, c'est comme ça qu'a commencé l'histoire. Et une des premières questions d'Amélie, c'est est-ce que tu veux des enfants, quoi? Parce qu'elle avait très envie sa maternité, voilà, c'était vraiment très très important pour elle. Je crois que ça a été une des premières questions qu'elle m'a posées. Oui, j'ai dit oui, quoi, pas pour faire plaisir, pour faire le gars qui dit bon, bah tiens, je vais marquer des points. Mais je crois qu'il y avait vraiment ça. Mais c'était un oui avec quelque chose de très évasif, en fait. Parce que finalement, c'est quoi la paternité? Comment on devient père? Comment on est père? Comment va naître le lien à l'enfant? Il y a tout un tas de choses. Je crois que oui, je me posais pas beaucoup de questions, mais il n'y avait pas forcément une envie prégnante et effective, on va dire, d'accueillir des enfants, quoi.
Est-ce que tu avais certaines peurs, comme par exemple de reproduire des choses que toi-même tu avais vécues en tant qu'enfant?
À ce moment-là, non. Je crois que j'avais vraiment, il n'y avait pas de peur à proprement dit parce que je l'amenais pas à ma conscience, en fait. J'ai pas amené ça à ma conscience à dire que il y a toute une dynamique, en fait, d'inconscient collectif, familial et personnel qui va se mettre en œuvre. On va dire au moment où on va avoir un enfant, quoi. Et je crois que c'est vraiment ça, c'est important. Ça me venait pas à l'esprit, en fait. J'étais pas dans une dynamique proactive et à me dire, ah bah tiens, il faut que peut-être que je prépare ça, et si je m'interroge sur ce qu'elle va induire, est-ce que ça va venir réveiller des choses en moi? J'aime bien dire que quand un père est sur le point d'avoir un enfant ou d'accueillir un enfant, le terme avoir, c'est toujours quelque chose que je suis pas forcément à l'aise quand on dit avoir un enfant, mais bon, du coup, on va dire, j'aime bien dire accueillir un enfant. C'est qu'il va y avoir deux enfants à accueillir, il va y avoir l'enfant à naître, voilà, et puis il y a aussi notre propre enfant intérieur qui va revenir sur le devant de la scène et qui va venir dire plein de choses, quoi. Et ça, je crois que j'en avais pas forcément conscience, quoi. Donc voilà.
Ah, je l'avais jamais vu comme ça. Moi, je dis souvent que quand il y a un enfant qui naît, il y a aussi un père, une mère, une famille.
Oui.
Mais l'enfant intérieur qui se réveille, je l'avais pas vu comme ça. Effectivement, bah, je l'ai vécu, donc je sais ce que c'est.
Ouais.
C'est assez bouleversant.
Ouais, clairement. Je n'étais pas, tu vois, dans cette conscience-là, en fait, par rapport à ta question.
Ok.
Mais c'est sûr que c'est venu pour le premier réveiller tout un tas de choses, quoi. Puis moi, je suis le premier aussi de ma fratrie. Enfin, voilà. Enfin, bon, il y a toute une histoire, en fait. Ça réveille tout. Ma mère voulait 4 enfants. Elle a fait une descente d'organes. Elle a pu en avoir que 2. Puis nous, on en a eu 5, tu vois, avec toute une histoire. Et oui, il y a tout un tas de choses. Et puis, qu'est-ce que ça me présente comme miroir, cet enfant? Donc, il y a une. Oui, il y a quelque chose qui vient s'éveiller au-delà, en fait, de la présence physique de cet enfant qui arrive au monde, ou qui est en chemin pour le monde d'abord et ensuite qui arrive au monde. Il y a des choses intérieures importantes qui se passent.
Tu rencontres ta voisine de palier, vous vous mettez en couple, elle vous dit
ça.
Qu'elle vaut des enfants, et un jour,
oui.
Ça se concrétise. Donc ça se passe comment, cette histoire?
C'était 3 ans, oui, 3 ans après. 3 ans après, je crois qu'on s'est rencontrés en 98, et en 2001, on s'est mariés. En 2002, Adam est arrivé. Donc, c'est très classique. Un jour, un matin, elle est venue, voilà, avec me présentant les petits chaussons, en disant, bah voilà, et c'est très romancé, peut-être. Et en fait, je me dis, je vois les chaussons, et en même temps, en tant que com' et que père, j'ai du mal à me projeter, me dire, oui, ça y est, il y a la vie qui est en elle, qui est en chemin. Enfin, il y a la vie qui est en moi aussi, mais il y a une deuxième vie qui est en chemin à l'intérieur d'elle, et c'est pas si concret que ça, c'est pas très palpable, en fait. Tant que t'as pas les modifications physiques, on va dire, du corps d'Amélie qui était présente et manifeste, et avec, pour moi, ça restait un peu, c'était impalpable, en fait, quoi. Pour l'amener à ma conscience, ça a été difficile, quoi. Ça a été difficile. Donc, il y avait quelque chose qu'elle me présentait comme un événement, qui était en chemin, et en même temps, c'est difficile de le concevoir, moi, en tant qu'homme, quand je voyais ça.
Et comment tu as réussi à tirer le fil pour te rapprocher de cet événement qui était aussi à toi, même si ce n'était pas dans ton corps? Comment tu as réussi à te connecter plus à cette grossesse?
Pour l'homme que je suis, je pourrais raconter 5 histoires de pères différents avec les 5 enfants, en fait, qu'on a avec Amélie. Et je vais dire que pour le premier, Adam, qui a 23 ans aujourd'hui, c'est assez caricatural et pas forcément. C'est-à-dire que quand je dis ça me satisfait pas, c'est partie de mon histoire, j'ai fait la paix avec et ce qui s'ensuit, mais c'est très caricatural de se dire que c'était quoi ma place. Ma place, c'était d'aller travailler, j'avais pas conscience de ça. Enfin voilà, j'étais là pour subvenir à quelque chose, les besoins de ma famille. Enfin, quand je le dis, j'en ai conscience, quoi. Tu vois, c'est des trucs, c'est très caricatural. C'était difficile pour moi de me rendre compte, en fait, de ce que vivait vraiment Amélie, quoi. Et je crois que la communication, peut-être qu'elle me le disait, et j'arrivais pas à le percevoir, en fait. Donc je crois que j'ai pu rentrer dans ma paternité quand Adam est vraiment arrivé, quand le jour de l'accouchement est arrivé. Bon, ça, voilà, j'ai essayé d'être présent en tant que faire se peut, mais tout en n'ayant pas forcément, je me suis pas vraiment informé de tout ce que ça pouvait induire, de ce qui pouvait se passer. C'était une amie, en fait, qui était sage-femme aussi, qui accompagnait Amélie dans son accouchement, même si on l'a fait dans un environnement hospitalier. Ouais, il y avait une forme de distance, en fait, pas savoir trop. Et puis c'était quoi ma place dans toute cette histoire? Et même au début, en fait, de l'histoire, je crois que j'avais du mal à me positionner, quoi. C'est quoi mon rôle dans tout ça? Qu'est-ce que j'ai envie? Comment j'ai envie de m'impliquer? Comment je tisse le lien? Et donc ça s'est fait, en fait, ça s'est fait dans l'instant, au fur et à mesure, quoi. Je crois que j'ai eu une chance, j'allais dire, c'est qu'Amélie était encline, elle avait vraiment envie aussi que j'occupe cette place, en fait, de père. Donc elle m'invitait aussi à ça, quoi. Que des fois, ça peut se passer qu'il n'y a pas forcément d'invitation et la mère n'a pas forcément non plus envie, en fait, que l'homme rentre dans cette dynamique-là. Mais en tout cas, moi, je crois qu'il y avait vraiment ça. Donc, j'ai vraiment appris, quoi. Appris et puis, j'ai réussi, quoi, à trouver cette place. Mais au fil du temps, ça ne s'est pas fait spontanément, quoi. Et une forme de lucidité, quoi, et d'authenticité. Je dois, enfin, m'avouer et avouer que c'était pas évident, en fait. Je crois que si j'avais pas eu de sensibilisation en amont, d'informations, d'échanges vraiment avec d'autres pères, du coup je l'ai découvert, en fait, sur le tas. Et je crois que de mon expérience aujourd'hui, ça peut être sympa d'avoir quelques petits tips avant, quoi, ou de, tu vois, de, Que ce soit pour toi, pour le couple, pour la relation, pour, enfin voilà, pour la maman, comment tu accompagnes, comment tu fais ça, et voilà, mais je suis en paix avec avec ce père-là, quoi, avec le père que j'ai été, et la relation à mon fils de 23 ans est, voilà, est très belle aujourd'hui, et même si, entre guillemets, si on pouvait rembobiner, mais ce qui n'est pas le cas, je fais autrement, mais c'est en tout cas, c'est une forme d'apprentissage à cet endroit.
Est-ce que Amélie t'a démontré à des moments qu'elle se sentait un peu seule, ou même elle vivait dans ce schéma qu'en fait on connaît tous parce que c'est le schéma classique et elle se rendait pas forcément compte que tu arrivais pas à trouver ta place?
Oui, se sentir seul, oui, on a pu, voilà, poser et pacifier aussi entre nous, quoi, ce bout de chemin ensemble et cette expérience de sa première grossesse. Oui, il y a eu un sentiment de solitude pour elle, clairement, clairement. Enfin, oui, pour moi, j'arrivais pas à percevoir parce que c'est pas chez ma journée au travail. Enfin, quand je te dis tout ça, vraiment, c'est très caricatural, quoi. Tu vois, je mettais toute mon énergie à cet endroit et en rentrant, Adam n'était pas là, en fait. Il était à l'intérieur d'elle, mais il n'était pas là physiquement pour moi. Et elle aurait besoin de soutien, et surtout à ce moment-là, quoi, dans ce moment de grossesse, où ça devient besoin de prendre soin, en fait. J'ai mon histoire personnelle, tu vois, dans ma lignée, dans la manière, dans est-ce que les pères ont été présents, de quelle manière ils ont été présents, et comment ils ont occupé leur place. Et elle avait conscience, Amélie est psychologue, quoi. Donc, bon, tu vois, il y a un peu la fibre, elle est psychologue, donc il y a un peu, voilà, l'histoire des gens, les incidences, et tout ça. Et je crois que oui, elle avait bien conscience que ma place n'était pas évidente, en fait, et comment me positionner par rapport à tout ça. Où mettre mon énergie, de quelle manière, et comment ça pouvait servir, elle, ce qu'elle vivait dans cette expérience de la maternité et de la grossesse. Et puis moi, comment ça pouvait me servir pour qu'on reste en lien aussi, et pour notre couple.
Et donc, t'étais pas du tout préparée. Et ce premier accouchement, du coup, ça se passe comment? Quelle place tu occupes? Est-ce que tu arrives quand même à être là, présent pour elle? Ou vu que de toute façon, la sage-femme est une amie, est-ce que tu délègues entièrement? Tu délègues entièrement, tu t'extrais entièrement?
Bah écoute, oui, non, c'était ça, quoi, clairement. Enfin, j'étais présent, mais enfin, tu vois, c'est le caméraman, quoi, tu vois, le truc, bon, voilà, c'est un peu ça mon rôle, tout en étant là en soutien, parce que enfin, ce que j'ai touché là, c'est un profond sentiment d'impuissance, parce que Amélie a choisi de faire ses 5 accouchements sans péridurale. C'était une volonté pour elle de sentir, en fait, et de ressentir son corps, et de vivre l'expérience, voilà, de cette manière. J'essayais de faire au mieux en fonction des besoins. Elle, c'était une découverte aussi, quoi. Voilà, c'était son premier accouchement. Et Sandra qui était là, ben, elle, c'était son job. Donc, ouais, j'avais l'impression d'être là, mais au mieux de ce que je pouvais faire et de répondre si tant est, tu vois, ça peut être donner la main, ça peut être, voilà, d'essayer de rapporter quelque chose. Et les trucs caricaturaux, tu vois, de pchiter, enfin, sans que ce soit excessif, quoi, tu vois, c'est vraiment les trucs, je pourrais prendre une BD, tu vois, comique, de dire, tu sais, tu pchites l'eau pour, voilà, parce qu'il faisait chaud à ce moment-là, parce que tout ça, et ouais, c'était un sentiment de faire au mieux avec ce que j'étais à ce moment-là, quoi.
Et donc, tu dis que chaque naissance, c'est une autre version de toi-même qui est là.
Ouais.
Comment, qu'est-ce qui s'est passé entre le premier et le deuxième?
Qu'est-ce qui s'est passé entre le premier et le deuxième? Ah bah Ambre, bah déjà c'était une fille qui est arrivée, deuxième, donc il y a quelque chose aussi de différent un peu qui s'installe. Et puis tout n'est plus une découverte, quoi. Parce que, enfin, on a une force dans notre couple avec Amélie, c'est quand même qu'on arrive à échanger, à se poser et puis à cheminer chacun de notre côté avec les miroirs qu'on se renvoie et puis ensemble, voilà. Donc notre relation est basée aussi là-dessus. Et donc on a pu parler aussi. Des choses, voilà, des manquements peut-être ou des écueils de ceux dont tu avais besoin et que j'étais pas présent. Elle, c'était plus une découverte non plus dans sa grossesse. Donc voilà, je crois il y a eu une présence qui a été aussi plus importante. Même si, ben, moi, je continuais à travailler, elle était à la maison, il y avait Adam qui était petit. Donc c'est encore un autre challenge, en fait, pour une maman,
Il
de
avait
gérer
quel
ça,
âge?
c'est-à-dire, Adam, il avait 3 ans, en fait, quand Ambre est née. Ils ont 3 ans d'écart. Adam est né en juin et Ambre en avril. Donc voilà, il y a un petit 3 ans d'écart, mais né en 3 ans d'écart. Et puis avec une boule d'énergie, quoi. Adam, c'est une énergie de fou et qui avait un grand besoin, en fait, de présence. Donc ouais, il y avait quand même ça aussi, elle, pour gérer. Et moi, j'étais pas. Quand je rentrais à la maison, c'est toujours pareil, c'est le même schéma, quoi. Tu vois, quand je rentrais à la maison, j'avais quand même ça, quoi. C'est-à-dire, j'avais mes journées, mes problématiques de travail. Et elle avait un besoin, c'est que je puisse être en lien avec Adam et qu'elle puisse, moi, se poser et se déposer à des endroits. Donc,
faisais quoi à cette époque-là?
J'étais dans la banque, en fait. J'étais en marketing en banque. Et c'est vrai que j'avais, c'était mon travail occupait une place importante, quoi. Mais toujours avec l'idée, et l'idée de subvenir aux besoins de la famille, enfin, ces trucs-là, quoi. Alors que, tu peux très bien le faire tout en étant plus présente, quoi. C'est la place que tu laisses aux choses, en fait, et quel choix tu fais. Ça reste de ta responsabilité, en fait, ces choix-là. Mais oui, je crois qu'il y a eu ça. Et puis, l'accouchement, c'est encore Sandra, en fait, qui était présente à ce moment-là. Et donc, différent. On avait déjà une première expérience. Donc, c'était différent dans ma place et autres. Je pense que j'étais plus à l'écoute. Je découvrais pas tout parce que t'as plein de choses. Tu découvres l'environnement médical. Tu découvres une sorte de cheminement. Puis des mots aussi quand même. Tu vois, t'as quand même un vocabulaire qui est propre aussi à cet endroit-là. Donc si tu découvres tout, si je reparle là-dedans, t'es un peu paumé, quoi. Tu vois, c'est comme si quelqu'un devait s'occuper de quelque chose et qu'il y a un vocabulaire technique que tu connais pas. T'es plus dans ta tête à dire, ouais, ça veut dire quoi. Et donc si t'as aussi une forme d'information et d'échange en amont, t'es déjà plus à même de mettre un peu plus de fluidité et de légèreté à des endroits où si tu sais rien du tout et que tu débarques à un endroit où t'es complètement paumé, quoi.
Ah, c'est clair.
Donc, ce qui s'est passé, ouais, il y a ça, c'est que ça a été plus léger néanmoins, mais bon, Ambre est arrivé, il y avait d'autres trucs, par rapport à son poids, par rapport à sa manière. Donc tu découvres, on a découvert des choses à chaque accouchement, quoi. À chaque accouchement.
C'est vrai que je me souviens des premiers rendez-vous de suivi de grossesse, j'étais complètement larguée par rapport aux termes qui étaient utilisés, alors que je suis une femme et que je vais en suivi gynécologique. Normalement, je connaissais mon corps, il y a plein de choses que normalement je devrais déjà savoir, mais que je savais pas. Et mon mari, pareil, donc il y a vraiment beaucoup de termes techniques qui sont pas évidents. C'est pour ça que dans Gardien de la naissance, j'ai fait un petit lexique simplifié avec tous les termes qu'on ne connaît pas. Parce que vraiment,
Ouais, t'as raison. Et si, il y a quelque chose, en fait, que... C'est, on a fait de l'autonomie, en fait, pour la grossesse, en fait, d'Amélie pour Ambre. Et c'est vrai que l'autonomie, moi, m'a permis de conscientiser, parce que, de trouver aussi un peu une place, de me dire, tiens, je peux contribuer. C'est de même que de quelle manière je contribue, parce qu'Amélie peut dire des choses, mais de manière je contribue et j'acquiers une forme de savoir pratique qui peut vraiment venir aussi soulager les douleurs, quoi, quand t'es plus en fin de grossesse ou autre. Puis le contact. C'est-à-dire qu'à partir de 5 mois, tu vois, quand le bébé commence à bouger, tu dis que tu peux entrer en relation, en fait. Je crois qu'il y a ça qui a été riche pour moi, en fait, dans cette découverte, dans cette deuxième grossesse. C'est-à-dire, tiens, l'autonomie, cet art du toucher et d'entrer en relation avec l'enfant. Et même s'il y a entre guillemets une barrière de la peau en fait de la maman qui est là, mais t'entres en lien et dans la matière. C'est-à-dire que tu peux descendre en fait du mental, de se dire ah oui, il y a un enfant qui est en chemin et et c'est ma fille qui va naître d'ici quelques mois. Là tu dis ah non, je suis en lien avec elle. Et le fait de pouvoir aussi jouer d'une certaine manière, de se dire ah si je mets ma main comme ça, elle vient se lever. Tu vois, rien que le fait de le redire, ça me remet dans une émotion de dire, je concrétise l'aventure intérieure qui est en train de se passer dans le corps de ma femme, mais moi, je peux la vivre aussi, même si je suis à l'extérieur et que je suis pas encore dans la rencontre physique avec mon enfant. Quoique, il y a une forme de rencontre énergétique ou une rencontre émotionnelle qui est là, qui dit, ah oui, ça, je peux le palper, en fait. Et du coup, ça me permet de conscientiser, de sortir, de pas avoir seulement une aventure mentale, de me dire, ah oui, il y a l'enfant. Non, je vis aussi d'une manière corporelle et émotionnelle plus forte. Ce qui est en train de se jouer dans la vie qui arrive et qui et dans la rencontre effective, la rencontre commence déjà en amont.
Pour ceux qui connaissent pas, du coup, l'autonomie, c'est quand on touche le ventre de la maman de manière consciente en appelant son bébé. Et le bébé, effectivement, il vient, il répond à l'appel et il vient se mettre contre la main de la personne qui l'appelle, normalement le papa. C'est ça.
Hein? C'est ça. Ouais. Et puis tu le fais la voix, tu vois, c'est pareil. T'as des la dynamique de la voix, de parler, les sonorités, le chant, et puis aussi de physiquement de pouvoir soutenir aussi le corps de la femme quand même est soumis largement à contribution dans cette dynamique de grossesse. Et comment toi tu vois ta tête qui dit ah oui c'est vrai, moi je vois bien de quoi tu parles, mais bon moi je l'ai pas vécu, mais je sais qu'à cet endroit tu peux venir voir soulager, tu vois, des tensions, de pouvoir aussi détendre en fait le corps, d'ouvrir aussi l'espace. Et donc, il y a vraiment ce sentiment de contribution et de vivre avec que j'avais pas touché forcément, tu vois, avec Adam, tout en moi. Parce que je me sentais faire partie d'eux à cet endroit Et puis être le gars à côté, tu vois, qui, bah déjà, enfin voilà, qui est le caméraman ou qui est, tu vois, le gars qui va chercher un truc à manger parce que c'est ça qu'elle a envie de manger. Ou le... J'étais plus en marge de quelque chose. Mais bon, ça tenait ma responsabilité aussi, quoi. Mais c'est comment ensemble, en fait. Je crois que c'est ça. Ce terme ensemble me tient beaucoup à cœur, en fait, dans mes accompagnements ou dans, ou pour, tu vois, ou pour le couple. C'est comment on arrive à rester ensemble, chacun bien sûr dans le vécu de son expérience, mais comment on fait vivre aussi cette relation dans le ensemble. Et comment on peut le vivre, oui, tous les deux en fait, des moments en fait tous les deux, même si l'aventure se passe à l'intérieur de la femme, quoi. Tu vois, je suis touché de revivre ça parce que quand tu me poses cette question, c'est ça qui revient et oui, ça me remet dans cet élan de me dire oui, il y a quand même une franche différence entre le père, tu vois, qui a vécu cette première grossesse et le deuxième qui se dit ah oui tiens, il y a une forme d'implication et de place. Je me sentais beaucoup plus présent et impliqué et pouvoir m'impliquer, quoi.
Est-ce que du coup tu as ressenti cette différence à l'arrivée de ton bébé? Est-ce que tu t'es senti plus connecté à ce deuxième bébé sur les premières semaines, par exemple, que pour le premier?
Ouais, pour moi c'était vraiment différent. Je crois qu'il y a cette connexion physique, émotionnelle qui était présente. Alors c'est vrai que, enfin, pour moi aussi c'était, enfin, c'est une fille qui arrivait. Donc tu vois, quand on parlait des liens aux enfants et du cheminement et d'évolution, bah Adam, lui, c'était l'aîné de la fratrie. Donc comme moi, il me renvoyait plein de choses. C'était le même type de gamin que moi. Il dormait pas. Il avait une énergie de fou. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on en fait de cette énergie-là? Donc lui, forcément, Adam, il me faisait travailler, enfin cheminer d'une manière qui était différente, quoi, que Ambre qui arrivait, tu vois, qui était plus délicate, douce, puis c'était une fille, donc il y avait quelque chose qui était vraiment différent aussi dans le lien pour moi, donc de ce que ça me renvoyait en fait, en tant que père, au-delà de l'expérience d'Adam et du premier, j'avais aussi une posture qui était différente, quoi. J'avais une posture qui était différente dans mon lien et avec le sentiment effectivement que le lien avait été tissé en amont. Et donc, comme déjà la relation en amont en fait avait été tissée, bah, c'était différent. Puis j'ai fait, tu vois, j'ai le portage en fait, tu vois, c'était différencié, quoi. Le portage a commencé à ce moment-là, mais j'étais presque un extraterrestre, moi, il y a 23 ans, avec l'écharpe. Voilà, déjà, tu prends un cours pour monter l'écharpe, tu vois, dans tout. Alors, comment ça, en quel sens je la passe? Parce que t'as pas forcément, tu sais, les trucs qui se clipsaient, et puis c'est tout. Donc, c'est vraiment les écharpes en fait qui font des longueurs donc t'apprends à faire des nœuds, et voilà, pour que ce soit quand même sécure. Pour le bébé. Et puis oui, il y avait ça, quoi. C'était chouette, le fait de sentir aussi cette proximité. Donc je crois que oui, il y avait une implication qui était vraiment différente, quoi.
Donc tu passes de caméraman au père
Ah, c'est ça.
impliqué qui fait de l'autonomie et du portage. Donc là,
Acteur.
on n'est qu'au deuxième enfant,
Ouais.
hein. Donc qu'est-ce qui
C'est
se
ça.
passe pour le troisième?
Acteur. Je passe à acteur. Mais écoute, après, dans l'idée. Après, la vie, bah, la vie est surprenante, hein, tu le sais. Le troisième enfant, Anton, est arrivé, on va dire, sous stérilé. Donc, Ambre est née en 2005 et en 2008, Amélie tombe enceinte sous stérilé. Pour nous, ben, c'était OK. D'enfant voulu, pas voulu, désiré, pas désiré, que voilà, prévu, pas prévu, programmé, pas programmé. Enfin, il y a plein d'adjectifs et chacun, voilà, ça vibrera pour chacun. Mais d'où on a choisi, nous, d'accueillir cet enfant, qui était là, quoi, qui arrivait. Et donc, bah, voilà, on s'est mis dans cette disposition d'accueillir ce troisième enfant après Ambre, bah, 3 ans après. Et puis, bah, finalement, les choses ne se sont pas prévues, enfin, elles sont prévues comme elles, voilà, peut-être qu'elles étaient prévues par la vie. Et Amélie a, il y avait un accouchement qui était prévu, qui n'a pas pu se faire, qui s'est fait de manière un peu, comment dire, enfin, qui était imprévu, on va dire. Et puis à l'issue de cet accouchement qui a été difficile, le placenta, pareil, voulait pas sortir. Donc ça a été très très compliqué pour Amélie, cet accouchement. Il y avait vraiment une, alors toujours sans péridurale, et il y avait une forme d'intensité en fait à cet endroit. C'était très 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 forte à vivre. Et où moi c'est pareil, j'ai fait au mieux pour trouver cette place. Il y a eu une forme aussi de médicalisation et qui était beaucoup plus prégnante, une légèreté nettement moins présente, et voilà, donc les choses se sont faites et Anton est arrivé, et c'était particulier, quoi, vraiment particulier, cette naissance.
Pardon, qu'est-ce que tu veux dire par l'accouchement était prévu et il n'a pas pu se mener comme est-ce que c'était
Pas
toujours
pu.
votre amie sage-femme qui était là? Est-ce que c'est
Non,
ça qui a
justement,
changé?
Ouais, elle avait déménagé, c'était pas comme ça, et du coup, voilà, c'est beaucoup plus médicalisé, beaucoup plus impersonnel d'une certaine manière, imprévu aussi dans le moment où ça s'est passé, où Amélie, c'était pas, on est allé en fait sur place, puis finalement on dit, bah, faut qu'elle reste, voilà, l'accouchement va se faire, vous pouvez pas partir, donc tu as une forme d'effervescence en fait incontrôlée, tu vois, quand la vie te présente ce genre de choses, tu dis, waouh, qu'est-ce qui est en train de se passer? Puis après, le placenta, enfin voilà, une fois qu'Antoine était né, c'était difficile la sortie, vraiment, voilà, entre le col, entre les contractions, tu voyais, il y avait vraiment une souffrance aussi d'Amélie. Donc là, c'est là que tu retouches, en fait, ton impuissance. C'est l'être aimé qui est là et que tu vois, qui est en train d'accompagner la mise au monde d'un enfant. Et toi, t'es une forme de sentiment d'impuissance en tant qu'homme à cet endroit, qui est assez frustrante. T'aimes bien prendre un peu de cette douleur, mais tu peux pas. Et une fois Antoine arrivé, eh ben, c'était, ouais, un enfant qui avait quasiment toujours les yeux fermés et qui était pas très tonique, et nous on connaissait pas ça, quoi, avec Adam et Ambre qui étaient, c'est des boules d'énergie de fou, voilà, il y avait quelque chose qui était très, et puis bah au bout de 8 jours en fait, Amélie m'appelle, je suis au travail, et elle me dit, Antoine va pas bien, et donc je vais pas épiloguer trop, pas pour, mais va pas bien, et donc je la retrouve à l'hôpital en fait à 14 h je crois à peu près, et puis il y a eu tout un cheminement et tout un tas de choses, et puis vers 23 h 30 minuit, il était décédé en fait. Donc il y a eu un entérovirus, en fait, un virus d'une gastro, et comme un nouveau-né n'a quasiment pas de défense immunitaire, et ben voilà, et donc ça a été, ouais, très 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 complet, quoi, avec des phases en fait de dire, oui c'est bon, ça va mieux, il transfère à l'hôpital en hélicoptère, mais toi tu peux pas monter parce que ils ont pas le droit d'embarquer les gens, donc tu fais 80 bornes pour aller là-bas, et donc ben Anton décède au bout de 8 jours en fait. Et d'un moment de liesse, en fait, se transforme en un moment macabre, et avec bah, que les enfants qui sont petits, qui sont, tu vois, qui ont 5 ans et 2 ans, qu'il faut expliquer que leur frère est décédé, et qui vivent, bah, après tout un tas de choses dans la famille à cet endroit par rapport à la mort, par rapport à ce qui était censé être un moment de joie et qui devient un moment de, bah, tu traverses en fait la vie dans ces moments sombres, et comment tu fais pour le traverser, quoi. Donc ça, c'est vrai que ça a été la troisième expérience. En fait, bon, qui n'a rien à voir et que je souhaite à personne dans l'idée, mais qui est, quoi, et qui fait partie des moments de la vie, et où c'est comment tu fais pour entamer ce chemin de résilience seul et ensemble pour pas se perdre, parce que je sais qu'il y a des parents qui se perdent en fait dans ce chemin de résilience. Et puis, bah, comment tu fais aussi pour être aussi présent autant que faire se peut avec tes enfants qui sont quand même petits, quoi, tu vois, qui ont 5 ans et 2 ans, si c'est trois, et qui vivent, bah, aussi pleinement tout l'émotionnel en fait de leurs parents, et aussi eux-mêmes, quoi, le fait de se dire, bah, on était censé être trois et finalement on n'est que deux, et donc se joue tout un tas de choses en fait autour de la mort, autour de l'absence, autour du deuil et du cheminement, et avec toutes les choses qu'on peut imaginer, de se dire que, bah, non, c'est normalement quand tu te prépares à être parent, enfin, je veux pas, tu vois, c'est ça aussi, des fois j'ai dit, je vais plomber, quand je dis, tu vois, j'ai 5 enfants dans les étoiles, je vais plomber le truc, mais en même temps ça fait partie aussi des histoires et de la vie, et de se dire que t'es pas câblé en fait pour te dire, tiens, il faut que je choisisse une petite tombe, choisisse un petit truc, quelle couleur je le prends, et comment, c'est quoi les démarches, tu vois, pour enterrer ton enfant, quoi. Donc il y a eu cette et puis ben voilà, il y a eu cet événement-là qui aujourd'hui fait partie d'une des expériences de ma vie, qui est, je suis en paix avec ça. Et puis, bah, le père que j'étais aussi, parce que j'étais quand même très câblé, tu vois, scientifique, après Saint Thomas, je crois que ce que je vois et tout ça. Et pour cet enfant, j'ai toujours une berceuse pour chaque enfant. Je chante beaucoup et j'ai toujours chanté pour les enfants. Et autant pour Adam, c'était Jailhouse Rock, tu vois, d'Elvis Presley, tu parles, tu vois, je l'endormais un peu comme les gens, tu vois, dans certains pays africains où les berceuses sont là aussi pour les enfants, libèrent les tensions et après ils s'endorment une fois que les. Et pour Anton, j'avais choisi Alléluia, quoi. Tu vois, avant qu'il naisse, c'était Alléluia, la chanson que j'avais choisi. Et des fois, je me dis, bah oui, bah tiens, est-ce qu'il y a une part de moi qui savait, ou j'en sais rien, quoi. Tu vois, qu'il y a quelque chose qui allait se passer. C'était sa berceuse, quoi, Alléluia. Et par contre, pour Anton, je suis très content, c'est que enfin, je suis très content. Oui et non, c'est que j'étais plus présent. Et j'avais aussi, par contre, dit, bah, je profiterai après. Quand il voit, une fois de la sortie de la maternité, quand ce sera installé, je profiterai après. Et ben finalement, j'ai pas eu le temps de profiter, quoi. Donc tu vois, des fois, s'il y a des messages aussi là-dedans, c'est de se dire, ok, je profiterai après. Bah ouais, l'idée c'est ici et maintenant, quoi. Est-ce que t'as envie de prendre soin, et ben, profite maintenant, quoi. Parce que des fois, la vie, elle propose des choses que tu peux pas concevoir. Tant mieux qu'on puisse pas les concevoir, les mentaliser. profite là, quoi. Tu te dis pas, bah oui, c'est après que, enfin, comme beaucoup de choses qu'on fait dans la vie, hein, on se dit, bah oui, on le fera après, on profitera après, j'appellerai après, je prendrai soin après, on se verra après. Bah, des fois, c'est important de le faire maintenant, si ça te tient à cœur, quoi. Voilà.
Je suis un peu émue.
Ouais,
Un
donc,
peu
ok.
beaucoup. Ça se sent que tu as déjà beaucoup travaillé sur le sujet pour être aussi apaisée. C'est vrai que c'est fort, hein, décès d'un bébé si petit, après une grossesse.
Ouais. Oui, c'est, je peux en parler. Du coup, je peux accompagner. Tu vois, ça m'est arrivé d'accompagner aussi les autres. Ouais, il y a une forme d'intensité d'expérience de la vie auquel t'es pas préparé, mais enfin, tu vas pas te préparer à dire, tiens, mon enfant va mourir, quoi. Tu vois, ça, c'est, autant tu peux te préparer à ce que tu deviennes père, à ce que ton enfant te fasse père, autant se dire, tu vas pas dire, tiens, je vais faire une formation pour te dire, tiens, mon enfant va mourir. Et heureusement, parce que sinon tu vis plus, quoi. Tu vois, c'est pas possible de concevoir ce truc-là. Donc tu le traverses après. Autant que faire se peut, et donc du coup, ouais, avec Amélie, on est resté. Je crois que c'est pareil. On a réussi à traverser ça ensemble, bon, chacun de notre côté. Et tu vois, quand ton accompagnement, c'est pour les papas, quelque chose que j'ai vécu et pour mettre un peu plus de légèreté, c'est que moi, j'ai rien trouvé, quoi. Tu vois, même Amélie écrivait sur Magic Maman. Il y avait ce site, la Magic Maman, qui était là, et tu avais les mamanges en fait, et donc il y avait une section qui était dédiée en fait aux mères qui avaient vécu, qui vivaient de plein fouet la perte d'un enfant. Mais il n'y avait pas de section papange, il n'y avait pas de section. À ce moment-là, hein, d'accord, c'est pareil. Donc, du coup, c'était il y a, en 2000, en 2008, donc c'était il y a 18 ans. Et moi, j'avais pas d'espace, mais je ne sais même pas à qui en parler, quoi, en fait, tu vois. J'en parlais un peu à Amélie, mais qu'Amélie, il était dans son truc. Donc, à qui j'en parle, quoi. Donc, j'étais un peu tout seul avec ça. Et donc, je me suis retrouvé à écrire sur Magic Maman, tu vois, un père qui exprimait autant que faire se peut, bah, mon cheminement, quoi, toute la complexité de ce truc. Et puis, et pareil, encore à cet endroit-là, je vivais encore la frustration de me dire que wow, Amélie, elle était dans un. Ouais, c'était incroyable, quoi. Tu vois, et comment je fais pour accompagner, enfin, être présent au mieux tout en m'accompagnant moi-même, quoi. C'est déjà la première chose à faire. Mais ouais, il n'y avait pas d'espace pour les pères.
Parce que
Il n'y avait déjà pas trop d'espace pour la naissance, mais il n'y avait pas d'espace non plus pour le deuil, j'avais l'impression. Et je crois que c'est important aussi, ça, dans l'histoire de place, tu vois. Parce que bien sûr que j'étais impacté de plein fouet dans cette dynamique-là, quoi. Et j'ai fait aussi un post, tu vois, dans les croyances aussi des hommes et. Et après, on va peut-être passer à la quatrième naissance qui veut plus, tu vois, qui a une énergie un peu différente. Mais mon exutoire, ça a été l'écriture. J'avais cette chance aussi. Comme j'arrivais pas, c'est comme si j'avais une part de moi. Je fais beaucoup ce geste, tu vois, dans l'accompagnement. C'est comment je mets à l'extérieur, en fait, les choses qui vivent à l'intérieur. Comment je les ancre dans le papier pour pouvoir, qu'il y ait une part de moi qui puisse regarder. Ah oui, il y a une part de moi qui est en train de vivre ça, en fait, dans ce cheminement, quoi. Et donc, c'est vrai qu'il y a une invitation à faire ça aussi et à exprimer. Donc, tu vois, il y avait des sacs de parole déjà un peu pour les femmes, tu vois. Pour moi, Magic Maman, c'était un peu ça, quoi. C'était informel, mais il y avait un peu des sacs de femmes, quoi. Tu pouvais te conourir. Et des fois, par contre, c'est un peu plombant parce que quand t'as des gens qui restent, tu vois, dans leur deuil, toi, t'essaies d'en sortir. Bon, il y a tout, bon, voilà, on pourrait en parler une autre fois ou autrement, mais moi, j'avais pas, tu vois, ça. J'avais pas de cercle, pas de, j'avais certains amis à qui j'en parlais. Et tu touches après des sujets qui sont tellement sensibles et les gens savent pas trop comment se positionner. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que, tu vois, est-ce que, comme tu disais, t'es ému? Et bien sûr, ben, les gens ils se disent, ben ouais, mais si c'est pour que je pleure, et finalement, est-ce que tu vois, alors qu'il faudrait, ben non, mais tu peux pas être joyeuse, c'est ton truc humain, en résonance. Puis finalement, ben, pleurer ensemble, c'est bien, parler ensemble, c'est bien, si ça peut servir, quoi, tu vois. Donc, il n'y a pas de bonne manière. Je crois que c'est la présence, je crois que c'est le fait d'être présent. Et moi, le fait d'en parler, ça m'a aidé. Je crois que vraiment que j'invite ça, si jamais, tu vois, les gens qui nous écoutent et qu'il y a des hommes aussi, le fait d'en parler m'a permis aussi de soulager en fait la souffrance qui était en lien avec ça, quoi. Et de l'évacuer, même si bah ça fait partie de mon histoire et c'est voilà, il y a des choses, il y a des images qui restent ancrées pour moi à vie. Et donc, mais enfin, comme tu le dis, quoi, tu vois, ça peut être léger, même si ça peut paraître paradoxal, ça peut être léger aujourd'hui, même si dans la traversée, bon bah voilà, c'était sûr que c'était une autre énergie, quoi. Mais voilà.
Je pense qu'on pourra faire un épisode entier dédié à ce sujet, tellement
Ouais, parce que tu
il y a des
oui,
choses.
il y a vraiment. Ah ouais, il y a vraiment des choses et il y a plein de choses, tu vois. Enfin, quand on parle de tips, et même si c'est dire, oh merde, voilà, trouver des tips sur ce sujet. Mais oui, mais en fait, faut démystifier aussi la parole sur ce thème. Même si l'idée, c'est comme je te disais, je crois foncièrement, c'est pas de dire, ah ouais, tiens, je vais préparer ça si ça arrive, parce que sinon, enfin voilà, c'est pas l'idée. Mais si t'es dedans ou tu connais quelqu'un qui vit cette expérience. Oui, comment il y a des choses comme ça qui peuvent aussi faciliter la traversée, même si la traversée est houleuse et, tu vois, et orageuse et pluvieuse ou tout un tas de trucs. C'est comment il y a des choses qui peuvent laisser envisager un brin de soleil aussi et te dire, ah, tiens, il y a de la lumière quand même là. Et j'aime beaucoup le film de Nance Thomasé, et Je choisis de vivre. Je sais pas si tu connais ce film. Il a écrit
Non.
un film là-dessus. Sur cette thématique-là, d'une de ses copines qui avait vécu la perte d'un enfant. Et comment entamer ce chemin de résilience. Ça s'appelle Et je choisis de vivre. Et voilà, on avait fait un ciné-débat au cinéma c'est bien fait, en fait. Tu vois, c'est vraiment bien fait. Ouais.
D'accord.
La bonne mesure, la bonne intensité émotionnelle et approche pour moi de ce sujet. Voilà.
Ouais, c'est pas intéressant parce que c'est pas juste comment les accompagner à mieux traverser, c'est aussi comment les accompagner à extérioriser, comme tu disais, parce que en fait, dans les papas que j'ai interviewés jusqu'ici, il y en a, j'ai pas eu de papas qui m'ont parlé de décès après naissance, mais il y a des fausses couches, des avortements pour des raisons médicales qui sont quand même très très douloureux à vivre. Et souvent, ce qu'ils disent, c'est qu'ils se sentent hyper seuls parce que il n'y a pas d'espace pour en parler. Ils ne savent pas en parler parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'extérioriser leurs émotions. Et en plus, c'est la mère qui physiquement vit cet événement et qui a besoin de plus d'accompagnement, donc ils culpabilisent de remettre l'attention sur eux alors que ils devraient s'occuper de la mère. Donc je pense qu'il y a vraiment tout un sujet là-dessus.
Ouais, je vais finir là-dessus parce que du coup tu m'as permis avec tes mots de retrouver. Après on va passer à la quatrième parce que tout.
Oui.
Et j'en attends aussi c'est passé à la quatrième, j'espère dans cette série Netflix des naissances de voilà. Et j'ai un Instagram et c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que quand j'ai vécu cette expérience et après le décès d'Anton, les gens venaient me voir majoritairement, mais vraiment très majoritairement, et en me disant, et ta femme, comment ça va? Et bien sûr, c'était légitime, quoi, tu vois, mais et ta femme, comment ça va? Mais à un moment donné, enfin, pour moi, c'est comme si, tu vois, je n'existais pas en tant qu'homme dans mon cheminement de deuil. Donc, mais putain, mais moi aussi, tu vois, j'avais envie de dire, moi aussi, il y a mon fils, en fait, qui est plus là, et je vis le truc. Et ouais, et souvent, les gens disaient, ta femme, comment ça va?
Ouais.
Et pareil, j'ai vécu aussi, et j'ai terminé vraiment là-dessus, c'est quand ça s'est passé, en fait, quand il y a eu le deuil, en fait, il y a eu des moments de, il faut que je sois fort, en fait, à cet endroit. Tu vois, il y a des injonctions qui, pour moi, en fait, aujourd'hui, étaient, enfin, c'était pas concevable, normalement, ça aurait même pas dû se passer comme ça, mais il y a des injonctions, sois fort, qui se sont passées, il s'est passé des choses. Amélie était en sécurité avec ses parents, et là, j'ai pu lâcher, en fait, l'émotion. Et donc, tu vois, il y a même des contractions, en fait, à des endroits, comme des injonctions qui nous rattrapent en tant qu'hommes, dans des modèles d'inconscient collectif, qui fait qu'on est conditionné par des choses, et qu'à cet endroit, il faudrait aussi trouver des espaces pour qu'on prenne soin de nous, si tant est qu'on laisse le faire, bien sûr, hein, mais que de prendre soin aussi de ça. Et qu'il y a une légitimité aussi, tu vois, dans cette vulnérabilité, qu'on puisse prendre soin de cet endroit. Et donc, les cercles de parole pour hommes, moi, sont fondamentaux, et si c'est trop violent de le faire physiquement, bah il y en a qui se font aussi à distance, quoi, tu vois, et du coup c'est plus léger parce que tu peux couper ta caméra, pardon, si jamais tu vois t'as une émotion qui monte ou si t'es indisposé à quelque chose, voilà quoi.
Ok, on passe à la quatrième.
Oui, on passe à la quatrième. Ah, la quatrième naissance. La quatrième, c'est pareil, c'est une invitation, en fait. Donc du coup, on était dans notre cheminement et c'est vrai qu'on a eu un chemin avec Amélie et qui pouvait surprendre, c'est qu'on a eu un chemin de résilience qui a été assez rapide, on va dire, par rapport à ça, par rapport à l'événement qu'on avait vécu. Et donc, on a fait ce chemin de résilience tous les deux et à un moment donné, on était avec le préservatif à ce moment-là comme moyen de contraception, puisque avec les déconvenues, avec le stérilet, et puisque ça implique aussi pour Amélie au niveau du corps d'une femme, les stérilets et tous ces trucs-là. Voilà, on va pas faire des piloguer là-dessus parce qu'on pourrait faire aussi une heure de podcast sur le stérilet.
Oui.
Et voilà. Et donc, on a eu un écueil, on va dire, de préservatifs. Et puis voilà. Et puis Orion est arrivé.
Donc, d'accord. Combien de temps Orion, après?
Un an après.
Un an après.
Juste un an.
D'accord.
Enfin, pas juste un an après. Anton était né le 15 juillet, décédé le 23. Orion est arrivé le 21 juillet, 5 semaines en avance. C'est-à-dire dans la dynamique de vie, après chacun projette ce qu'il veut, croit pas. Mais Orion est venu ramener de la vie, alors que normalement il était censé ramener la vie beaucoup plus tard. Il est ramené la vie le 21 juillet, juste un an après, à un endroit, on avait connu quelque chose qui était avec une énergie plus sombre à ce moment-là. Et Orion est arrivé. Donc voilà, il est venu mettre de l'énergie de vie à un endroit où c'était pas prévu, enfin, c'est sûr, parce que voilà, on n'envisageait pas, on va dire, d'accueillir un quatrième enfant à ce moment-là. Mais j'aime à dire que la vie a fait que, et nous on était enclin à accueillir ça. Et bien sûr, pas forcément bien sûr, mais quand même un petit peu d'appréhension, quoi. Tu vois, les 8 premiers jours, quoi. Comment ça va se passer les 8 premiers jours? Est-ce qu'il va survivre?
Il est né un peu plus tôt que prévu, donc.
Donc voilà, avec tout ce que ça comporte, voilà, tous ces trucs-là. Bon, après, au niveau pulmonaire, tout ça, tout était OK. Bon, ouais, et puis moi, j'avais un ancrage qui était nettement, en tant que père, j'avais un ancrage qui était nettement plus important, quoi. Et avec toute l'histoire et autres. Et puis ça m'a fait cheminer aussi le décès d'Antoine, parce que ça m'a mis dans une dynamique de cheminement et d'introspection personnelle, de connaissance de soi, de connexion à plus grand que soi, tout un tas de choses. Donc j'étais au-delà de mon mental, au-delà de ma présence physique. Il y avait vraiment quelque chose de moi qui avait évolué dans une dynamique où je me sentais nettement plus présent, quoi, tu vois, et à dire bon, bah, la vie va me présenter des choses, ok, ça marche. J'avais une meilleure connaissance de manière, et puis de me réguler, de m'auto-réguler, d'être en lien, enfin tout un tas de choses. Et j'ai pu rester aussi là. Tu vois, j'ai pu rester sur place. J'avais un lit qui était là, présent. Donc j'étais vraiment, je baignais en fait dans l'environnement en fait de la naissance. Et le pot à pot. Et tu vois, j'en parle, c'est comme s'il y avait quelque chose de moi, tu vois, qui était de dire ah ça y est, je peux vivre en fait ce à quoi entre guillemets je m'étais préparé, parce que quand tu me disais, tu vois, tout à l'heure, ben, le premier, ouais, ma place de père c'était compliqué, comment l'occuper, enfin tout un tas de choses, est-ce que je peux, là, enfin Ambre c'était un peu différent, Antoine ben, j'ai pas pu, d'une certaine manière j'ai pu, mais c'était très très bref, et je me dis ouais, ben, ça y est, là je me sens vraiment, tu vois, père, presque, pas avec ma cape et mon truc, mais ouais, ça y est, là, c'est bon. Bon, alors, il y a certains se diront, bah oui, il a fallu attendre le quatrième pour qu'il soit prêt. Ça peut être plus vite pour les autres. Donc, comme je disais, il y a des choses, on peut se préparer et puis voilà, faire du chemin déjà en amont. Et donc, ouais, j'avais ça aussi. J'avais cette énergie-là de dire, ah, je peux incarner le père que j'avais vraiment le sentiment de pouvoir être, et je peux le manifester dans la matière, je peux vraiment être congruent par rapport à tout ce que j'ai connu sur mon chemin. Et ça y est, en fait, je peux le vivre avec Orion. Et donc, du coup, il y a un lien super fort qui a été tissé dès le début. Et là, quand on parle, tu vois, des notions d'attachement, enfin, bon, voilà, après, je sais pas si les auditeurs connaissent les notions d'attachement et tout ça, mais le lien est d'une densité. Et j'ai pu le goûter aussi après, quoi, tu vois. Autant Adam et Ambre, ils vont plus vers Mélie quand ils ont des chances. Et encore maintenant, c'est un peu différent. Mais Orion, c'était tout de suite, quoi. Il n'y avait pas forcément de différence notoire dans les choses qu'ils vivaient. Dans la notion d'attachement entre Mélie et moi. Même si, bah, bien sûr, après, il y a l'allaitement et tout ça, et je pouvais pas lui donner la doute, comme il disait. Et Orion, quoi, tu vois, il voulait la doute, bah, moi, je lui donne pas la doute. Mais il y avait ce lien qui était très, très fort. Mmh. Et du coup, j'ai pu goûter ça, et tu vois, même, je le sens vraiment quand je t'en reparle, quoi. Tu vois, de vivre ce truc, ça y est, quoi. La vie m'autorise, ou je suis autorisé à incarner ce père auquel je crois, quoi. Voilà. Mmh.
C'est hyper intéressant parce que c'est le lien d'attachement, c'est pas qu'une question de lien émotionnel, de un peu abstrait, c'est des choses qu'on voit physiquement parce qu'on, quand le lien d'attachement est fort avec le père, on va voir dans son cerveau quasiment les mêmes changements que dans le cerveau des mères. Oui. Donc c'est extraordinaire en fait, c'est ton corps qui change par rapport au temps que tu passes avec ton bébé et à ses besoins. C'est fou,
clair,
ça.
Ça nourrit tellement, tu vois, bah, même les taux de testostérone, tu vois, qui baissent et tout. Enfin, même finalement, on ne sait pas, mais l'homme, il est câblé, en fait, pour ça, en fait, aussi. Quoi. Mm. Son corps, dans l'idée, est câblé. Et s'il veut s'investir, en fait, dans cette relation, la vie et la nature vont faire en sorte que ça va lui simplifier aussi cette entrée en relation, en fait. Ça va le mettre dans les dispositions. Et que forcément, pour la mère, bah, c'est aussi une bénédiction. Parce que si l'enfant ne veut qu'être avec sa mère pour tout un tas de raisons, et voilà, et. Bah c'est, oui, enfin, c'est énergivore, quoi, tu vois, et donc, il n'y a pas d'espace aussi pour respirer, pour se poser, se reposer, et donc forcément, si le père est là, figure d'attachement, que lui, il prend plaisir à être en lien avec son enfant, puis en plus, il voit que ça renforce, il y a des choses qui se passent, qui sont fortes émotionnellement, physiquement, et dans la dynamique, mais ça sert tout le monde, en fait. Mm-hmm. Ça sert l'enfant, ça sert la maman, et ça sert le père, parce qu'il goûte, en fait, quelque chose du lien à son enfant qui prend une dimension qui est tout autre. Ça prend une intensité, une dimension qui est totalement différente, et quand j'en parle, je le vois, en fait, tu vois, ce quatrième père, entre guillemets, qui est toujours moi, mais quatrième père, ah ouais, bah, il a goûté quelque chose qui était totalement différent de la découverte, quand Adam m'a fait peur, tu vois.
Et pour le couple aussi, parce que du coup, s'il y a un équilibre au niveau de l'attachement, ça veut dire aussi qu'il y a moins de tension, parce qu'il n'y a pas l'histoire de « tu n'es pas assez présent, tu ne me laisses pas assez de place », parce que là, tu vois, c'est, tout ça, ça disparaît en fait.
Oui, c'est ça, il n'y a plus cette tension à ces endroits-là. Il y a d'autres trucs dans la vie, voilà, des questions de machin, mais pas toujours. Mais bon, ça, sinon, c'est pas marrant, la vie, si c'est tout plat. Mais oui, il y a ça. C'est de se dire, ah, oui, c'est beaucoup plus fluide, en fait. Il n'y a plus de grands débats comme on peut voir, tu vois, dans les articles, dans les machins, l'homme, il n'est pas là. Et puis c'est surtout que je goûtais ça d'une manière que ça me nourrissait, quoi, tu vois. Ça me nourrissait vraiment. Ça co-nourrissait, en fait, ça co-nourrissait tout l'écosystème de notre famille.
Donc là, tu es au top du top. Qu'est-ce qui se passe encore pour le cinquième? Parce que j'arrive plus à imaginer.
Mais pas du tout. Ouais, des fois, là, et ben, tu vois, voilà. Attention, roulement de tambour. Donc, du coup, après bascule, préservatif marche pas. On pourra enlever juste quelques mots, en fait, voilà, mais on n'a pas envisagé à ce moment-là, de moyen de contraception pour moi. C'est vrai qu'on l'avait pas envisagé avec Amélie, on en a même pas parlé et autres. Et puis moi, j'avais pas non plus été, j'étais pas non plus éveillé non plus à toutes les incidences que ça pouvait avoir, clairement. Et donc, le premier stérilet, entre guillemets, n'avait pas rempli sa fonction. Le préservatif, ça avait un peu échoué. On s'est dit, bon, voilà, quand même, quatre enfants. Donc Amélie change de stérilet et Elio trouve un chemin.
Voilà. Incroyable.
C'est-à-dire que Elio trouve un chemin. Tu as des trucs avec les blagues, avec MacGyver et tout ça, c'est peut-être pas, tu vois, les trucs de cette série, mais Elio a trouvé un chemin. Elio trouve un chemin pour arriver, en fait, avec le stérilet. Mais avec tout un tas, enfin, c'est encore épique, tu vois, je pourrais être encore de faire une heure, parce que on pensait qu'il était extra-utérin, enfin, la grossesse était extra-utérine, le gars qui veut piquer Amélie, enfin, ça fait comme ça, mais c'est un peu violent, mais c'est un peu ça, tu vois, piquer Amélie pour dire, c'est bon, enfin, faut pas risquer une grossesse extra-utérine, on va vous injecter quelque chose pour mettre un terme à cette grossesse. Un autre gynéco, beaucoup plus expérimenté, qui vient regarder, qui dit, non, là, regarde, il y a une toute petite, il y a une bribe, il voit, c'est comme si t'as un tout petit, une tête d'épingle qui fait, tu vois, si, il est là, c'est bien. Et voilà, et Elio arrive dans cet environnement-là, et nous, on dit oui.
Et, combien de temps après?
Elio, lui, est arrivé en 2013, 4 ans après Orion.
D'accord. Mais c'était, vous n'aviez pas envisagé d'avoir un dernier enfant du tout, du coup.
En fait, il y avait 3, 4 et 5 n'étaient pas, pas prévus. Tu vois, les termes, c'est toujours délicat, mais...
Oui.
C'est pareil, tu vois, du coup, il y a plein de choses qui me viennent parce qu'Orion, il se demande, oui, mais si Anton n'était pas décédé, est-ce que je serais là, quoi? Tu vois, il y a toutes ces choses-là qui viennent. Bon. Et Elio, voilà. Et donc, Elio arrive. Ouais, Elio arrive. Et là, on est bien, bien, bien prêt. Et on trouve une sage-femme qui veut bien nous accompagner dans un environnement, tu vois, cocoon. C'était une salle, en fait, d'accouchement dédiée dans un environnement médical et où là, c'était, la baignoire, tu vois, bon, qu'on avait déjà connu avant, je vais pas épiloguer là-dessus, mais tu vois, il y avait la baignoire, j'ai pu prendre le bain avec Amélie, tu vois, la soutenir aussi dans ses douleurs, puis il y avait le ballon, il y avait la manière, elle pouvait faire comme elle voulait, on avait la musique, on a chanté des hommes, tu vois, il y a une dynamique qui était vraiment très enveloppante, presque, c'était pas un accouchement à la maison, mais il y avait l'environnement, entre guillemets, d'une certaine manière, on va dire, voilà, pour les, et, qui était beaucoup plus familial, quoi. Et voilà, et Elio est arrivé là, et lui, il est arrivé comme Kirikou, quoi, tu vois, il est sorti la tête vers le ciel, et le truc, enfin voilà, et des fois, j'aime à dire, bah oui, tu te dis cinquième enfant, c'est tranquille, quoi, tu vois, t'as l'habitude, et des fois, Elio, je le compare au boss du dernier niveau, quoi, tu sais, dans les jeux vidéo, mais en fait, il est venu apprendre, il m'enseigne tellement, mes enfants, il est venu m'apprendre plein de choses, en fait, sur la vie, sur l'énergie, il m'a fait découvrir tellement de choses, ouais, il m'a fait cheminer, et enfin, je crois que c'est ça, quoi. Et du coup, ouais, forcément, pour la place du père, pareil, l'attachement, c'était très fort aussi. Une proximité très rapide, très forte, très intense, très épanouissante. Et forcément, du coup, plus simple aussi pour Amélie. Même si Elio, tu vois, il a d'autres choses, il a pas dormi pendant presque 4 ans et demi, il a eu un RGO. Enfin, c'était très éprouvant, quoi, physiquement, et tu vois, mettra aussi à le couple quand tu dors pas, tu vois ce que c'est, quoi, tu vois.
Avec trois enfants déjà, oui.
Mais voilà, c'est ça. Tu vois, on choisissait les choses simples. Et donc voilà, on a traversé ça, on est toujours ensemble. Et on est plutôt très épanouis ensemble avec nos enfants et la famille se porte bien. Donc oui, le cinquième, c'était autrement, quoi. Et donc dans ce cheminement-là, après à un moment donné, tu te dis, il y a une forme d'expérience, quoi. C'est pas que je sais et je connais ou j'ai une forme de vérité absolue sur la paternité, la vie et qu'est-ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, j'ai une expérience et une densité de choses que j'ai expérimentées qui me permettent de conseiller ou de le faire comme ça, quoi. De dire, c'est mon chemin n'est pas le chemin qu'il faut prendre, mais en tout cas, sur mon chemin, j'ai goûté plein de trucs qui peuvent aider d'autres hommes dans cette expérience pour qu'elle soit plus fluide, en fait, et sous toutes ses formes, quoi, sous toutes ses formes.
Si on revient, si on fait un peu le retour en arrière, on est parti de la version de toi un peu déconnectée qui fait du marketing en banque, et là, t'en es où? Parce que si tes enfants t'ont appris plein de choses, bah forcément, ça a un peu évolué.
Ouais, bah oui, c'est ça. Aujourd'hui, je suis thérapeute, comme je le disais, et j'accompagne, en fait, donc j'accompagne les hommes, les femmes et les enfants, voilà. Dans une dynamique de pacification intérieure, quoi, de fluidité, tu vois, de mettre de la conscience sur les choses éventuellement qui peuvent nous entraver dans notre vie et trouver une sorte de liberté à être ce qu'on a envie d'être à cet endroit de cette manière-là. Donc il y a vraiment cette invitation à l'introspection, quoi. Et je crois que c'est malheureux entre guillemets et heureux qu'Anton m'ait invité à ça, quoi. Tu vois, c'est d'une cette manière-là qui est en lien avec moi, c'est qu'il m'a permis, en fait, m'a invité en fait à faire ce cheminement d'introspection qui aujourd'hui je me sens beaucoup plus stable, beaucoup plus fort, beaucoup plus ancré, beaucoup plus conscient et libre aussi d'incarner l'homme que j'ai envie d'être dans des valeurs qui me semblent importantes aujourd'hui. Et c'est ça que j'essaye de rayonner au quotidien, tu vois, dans mes accompagnements et dans mes propositions, que ce soit en individuel ou en collectif. Prochainement, tu vois, il y a une des choses que je propose, c'est des accompagnements en groupe, et c'est ça s'appelle M'aligner mon père et moi. Et donc, c'est comment, tu vois, tu te positionnes en tant qu'homme, en fait, dans toute cette, dans ce cheminement familial et dans cette histoire. Et comment tu prends ou tu occupes ta place tout en touchant, en fait, les subtilités de ce qui va se passer si tu es père ou si tu vas le devenir dans les réveils d'enfants intérieurs, dans les réveils de ta propre lignée et toutes ces choses-là. Et puis après, soit en collectif, soit en individuel. Mais en tout cas, voilà. Et les cercles de parole sont importants aussi pour commencer à mettre un pied, en fait, Tu vois, tu as évoqué le sentiment de solitude. Je crois que c'est ça que je touche aussi avec les hommes, c'est qu'il y a ça. Un sentiment de solitude, alors qu'on est, on va dire, 3,5 milliards d'hommes sur Terre, mais on est quand même seul, quoi. Tu vois, c'est compliqué, quoi. Donc, comment on démystifie ça?
Quand tu parles de m'aligner, mon père et moi, ce qui me revient le plus, c'est la question de l'autorité paternelle, parce que on en entend parler encore aujourd'hui des gens très reconnus sur le sujet de la petite enfance qui viennent dire que le rôle de père, c'est d'être autoritaire, de représenter l'autorité dans la famille. Et donc, toi, comment ça a évolué chez toi?
Alors, si tu avais posé la question au Sébastien, papa d'Adam, je te dirais, bah oui, ça fait partie, tu vois, dans mes croyances, ça faisait partie du rôle, au-delà de ramener de l'argent à la maison et tout ça, bah oui, je suis là pour poser la loi, je suis une forme de bras armé qui vient, tu vois, faire obéir et tout ça, quand la maman est dépassée, ou même si je suis pas là, enfin, tous ces trucs-là, quoi. Aujourd'hui, le Sébastien d'aujourd'hui, même ça a été avant, hein, je veux dire, voilà, dans la dynamique, mais même avec Adam, en fait, tu vois, Adam, jusqu'à ses 7-8 ans, c'était cette énergie-là, et à un moment donné, il y a quelque chose qui a changé, quoi. C'est-à-dire que c'était plus possible, et puis... Donc, oui, il y a une dynamique qui est beaucoup plus horizontale. J'ai un bouquin qui s'appelle « Être parent en pleine conscience » de Jon Kabat-Zinn, qui est aussi sur une sorte de livre de chevet, « Être parent en pleine conscience », pour se dire comment je vis le lien, en fait, à l'enfant. Et je crois que dans l'autorité, il y a la peur, il y a une peur, en fait, de l'adulte. Et quand t'as plus peur... de ton enfant, et quand t'as plus peur de toi, tu peux commencer à construire quelque chose d'horizontal. Et cette horizontalité ne veut pas dire que c'est l'enfant qui va prendre le pouvoir, enfin, toutes les notions. Enfin, ça, c'est pareil, on peut faire un podcast, enfin, tu vois, je peux en parler pendant 4 heures. Tant pis pour les autres, mais ils peuvent couper toujours s'ils veulent plus envie de m'entendre. Je crois que tu peux construire une relation vraiment horizontale, tout en gardant la notion d'être bienveillant avec toi-même. Au-delà d'être bienveillant avec l'enfant, parce qu'il y a tous les débats sur l'éducation bienveillante et tout. Donc oui, aujourd'hui, moi, j'ai une belle relation avec mes enfants qui me convient très bien. Je me sens pas bouffé par eux. J'ai pas d'enfants tyrans. Je suis pas autoritariste. Et je suis content que ce soit comme ça. Et mes enfants n'ont pas peur de moi. Et comme mes enfants n'ont pas peur de moi, dans leurs expériences de vie, où je suis pas forcément toujours d'accord, mais néanmoins, ils savent me trouver quand ils se disent, ah ouais, là, j'aurais besoin d'un coup de main de papa, ou il y a quelque chose qui me travaille, quelque chose où je suis en galère pour tel truc. Ils peuvent venir me voir, et ils savent que cet endroit, si c'est ok pour moi, je vais les accompagner, je vais les aider. et je vais pas les rabrouer, leur dire oui, mais moi je suis l'adulte, je sais ce que c'est que la vie. Toi tu sais pas parce que t'es petit. Donc voilà, le chemin de vie de chacun est propre. Donc je peux leur donner des conseils, ou leur dire voilà moi comment je vois la vie aujourd'hui. Mais je ne sais pas ce qu'est la vie pour eux ou ce que sera leur vie, mais je peux les accompagner au mieux. Tu vois, quand on parlait de traversée tout à l'heure, ils savent qu'ils peuvent avoir une main tendue dans leur expérience de vie. Voilà. Donc ils n'ont pas peur. Et j'ai vécu mais des choses très fortes, très intenses dans l'expérience de vie de chacun. Et de toute façon, s'il y a quelque chose qui est illusoire, c'est de croire que si tu fais peur à ton enfant et si tu as l'impression de le contrôler, même quand il n'est pas à côté de toi, il va pas faire les choses que tu veux pas qu'il fasse. Il vivra l'expérience qu'il veut vivre au moment où il doit la vivre, et c'est pas en lui faisant peur qu'il va pas le faire. Et ça peut même être contre-productif parce que voilà. Et tu vois même l'adolescence, maman. Après voilà, tu vois même l'adolescence. Je ne crois pas aujourd'hui à cette rébellion profonde et ce truc de casser la relation à l'adolescence. Bien sûr que c'est une période particulière parce que c'est toute une dynamique hormonale et puis une dynamique aussi de connaissance du groupe et autres et de séparation des parents. Mais moi, j'ai pas vécu quelque chose de violent avec mes enfants. Ils ont su se détacher, ils ont su faire leur vie d'ado. On les a sentis aussi, voilà, en confrontation. Mais ça a été, je crois, beaucoup plus léger qu'un truc frontal qui est violent, qui est intense, qui peut être une séparation, qui peut être parce qu'il y a quelque chose qui a été construit en amont, qui est d'une autre couleur que celle de l'autoritarisme et que t'as l'impression que tu peux contrôler tes gosses et que c'est une illusion. Et que c'est pas pour moi pas le bon chemin, quoi, même s'il faut que je prenne une position sans juger ceux qui le font, parce que moi, avec Adam, j'étais parti comme ça, quoi. Mon indicateur aujourd'hui, c'est la qualité de la relation. Est-ce qu'on a joie à être ensemble? Est-ce qu'on se nourrit quand on a? Est-ce qu'on se marre? Ça, c'est la qualité de la relation que j'appelle. Et puisqu'il reste que chacun est libre de le vivre ou pas, s'il en a envie. S'il n'a pas envie, est-ce qu'il est libre de le dire? Et c'est ça que j'appelle, moi, mon indicateur phare aujourd'hui, c'est ça. Tu réveilles tellement de sujets, tu vois, voilà, il y a vraiment tellement de choses.
Dernière question. Si tu pouvais envoyer un message à ta version de toi qui n'était pas encore papa, ce serait quel message?
J'ai le droit de lui dire plusieurs choses. Je lui dirais échange avec des pères, enfin PIRS et pères, voilà, pour goûter l'expérience des autres et de toucher un peu ce que ça fait, est-ce que ça peut impliquer en fait d'être le chemin sur le chemin de la paternité. Je lui dirais renseigne-toi. On ne sait jamais trop comment ça va se passer de manière avec certitude, mais renseigne-toi quand même sur des choses qui sont tangibles, du vocabulaire, de voilà. Et prends conscience aussi que tu as une place en fait dans cette expérience de vie. Tu peux choisir de prendre cette place, d'occuper cette place auprès de ta compagne et goûte aussi ce que ça peut faire chez la femme, enfin chez ta compagne, ce que ça va impliquer pour elle, quoi. Parce que si tu touches ça, tu seras plus à même de répondre et d'être présent aux besoins et de soutenir, de faire partie de l'aventure, que si tu restes dans une forme d'inconscience et de distance. Et tu vivras du coup une expérience qui sera beaucoup plus riche, beaucoup plus intense et beaucoup plus nourrissante pour toi et pour tout l'écosystème de ta famille, quoi. Ouais, je dirais ça, c'est pas mal. J'espère que
Ouais,
tu m'as
c'est
entendu, Sébastien. Ouais.
Bah, merci
Ouais,
beaucoup. Bah, je pense que du coup, c'est des messages hyper intéressants à faire passer à ses enfants, notamment parce que tu as des
c'est
garçons, donc
ça,
c'est précieux.
ouais, 4, 5 enfants, 4 garçons. Enfin bon, il y a des choses à faire dans la transmission. Merci, un grand merci, Susanna, pour cette parole que tu ouvres aux hommes, et voilà, j'espère que ça inspirera d'autres hommes à s'autoriser en fait, voilà, à poser et déposer leurs paroles. Et puis ouais, merci pour ce que tu fais aussi pour les hommes, parce qu'en faisant ça, on contribue aussi à voilà, à agir aussi pour les femmes et les enfants.
Oui, c'est ça. Pour
Mais
moi, je suis
ensemble,
convaincue.
ouais, ensemble,
C'est
voilà,
ça.
ensemble, c'est le plus long,
Je
ensemble.
suis convaincue qu'un père mieux préparé, c'est une mère qui va mieux, ou un couple qui va mieux, ou une famille qui va mieux, un enfant qui va mieux.
C'est ça.
C'est ça.
C'est ça.
Je vais mettre dans le descriptif de l'épisode le livre dont tu as parlé, le DVD aussi, sur Je choisis de vivre, c'est ça.
Ouais, et je choisis de
Et
vivre.
je choisis de
Et je
vivre.
choisis de vivre. Voilà. C'est Nu et Culotté, tu les vois les deux gars qui font cette émission ou pas? Ça te parle, Nu et Culotté?
Non, non, j'avoue que j'ai pas beaucoup
Des années que ça dure, peut-être ou pas. C'est deux potes, en fait, qui partent à poil à un endroit et qui se donnent l'objectif d'arriver à un autre endroit pour vivre une expérience de vie.
D'accord.
Tu vas,
oui, ça me dit quelque chose. Oui.
Et donc, mon frère, en fait, il a réalisé ce film pour une de ses amies, en fait, qui avait vécu la perte d'un enfant.
D'accord.
Et c'est, en fait, c'est beau. Même si le thème est dur, tu vois, et intense et profond, mais le reportage est beau. C'est pas plombant. Enfin voilà, c'est difficile de mettre ces mots-là sur des trucs quand c'est la mort d'un enfant, mais c'est pas plombant, tu vois. Ça note une note d'espoir. Il y a une forme d'espérance de se dire ah ok, on peut continuer de choisir de vivre et de goûter ça, même si on a vécu ça, et on peut encore avoir envie d'être là en fait, même après cet événement. Merci, c'était chouette. Mais ouais, ça m'a permis de regoûter des intensités de vie, tu vois, dans les accouchements et dans le cheminement. C'était beau aussi pour moi. Merci pour ça.
Merci à toi.
Merci d'avoir écouté cet épisode des Gardiens de la Naissance. Si cette interview t'a touché ou éclairé, le défi audio te sera encore plus utile. Ce sont plus de 20 sujets spécifiquement dédiés aux futurs pères avec des outils pratiques et des actions concrètes à mettre en place dès aujourd'hui. On y parle de grossesse, d'accouchement, de postpartum, d'allaitement, de lien avec ton bébé, de sexualité, de comment parler d'argent en couple. Bref, j'ai mis tout ce qui aurait changé la vie de mon mari et la mienne pendant ma première grossesse. Ce podcast est tout nouveau et j'ai besoin de ton soutien pour le faire connaître. N'hésite pas à le noter sur ton appli ou à le partager avec tes amis. Et si tu veux recevoir des ressources gratuites chaque semaine, inscris-toi à ma newsletter. Tous les liens sont en description de l'épisode. On se retrouve très vite pour un nouveau récit. À bientôt!